transmettait à tout Israël la parole que l'Éternel lui adressait. En ce temps-là, les Philistins se rassemblèrent pour faire la guerre à Israël, et les Israélites se mirent en campagne pour les affronter. Ils dressèrent leur camp près d'Ébénézer, et les Philistins établirent le leur à Éphek. Les Philistins se rangèrent en ordre de bataille pour affronter les Israélites. Le combat s'amplifia. Les Philistins défirent les Israélites et tuèrent dans leur rang environ 4000 hommes sur le champ de bataille. Lorsque le peuple regagna le camp, les responsables d'Israël se demandèrent « Pourquoi l'Éternel nous a-t-il fait battre aujourd'hui par les Philistins ? Allons chercher le coffre de l'Alliance ou l'Arche de l'Alliance de l'Éternel à Silo et ramenons-le au milieu de nous pour qu'il nous délivre de nos ennemis. » On envoya donc des gens à Silo, et ils en ramenèrent le coffre de l'Alliance de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes qui trône entre les chérubins. Les deux fils d'Élie, Ophni et Phinéas, accompagnèrent le coffre de l'Alliance de Dieu. Donc les deux membres du clergé corrompus. Dès que le coffre arriva au camp, tous les Israélites poussèrent de si grands cris de joie que la terre en fut ébranlée. En entendant ces acclamations, les Philistins se demandèrent ce que signifiaient ces grands cris dans le camp des Hébreux. Ils apprirent que le coffre de l'Éternel était arrivé au camp. Alors ils prirent peur, car ils se disaient « Dieu est venu dans le camp des Hébreux ». Et ils ajoutaient « Malheur à nous ! Il n'en était pas ainsi auparavant. Malheur à nous ! Qui nous délivrera de ces dieux puissants ? Ce sont ces dieux-là qui ont infligé toutes sortes de coups aux Égyptiens dans le désert. Philistins, soyez forts, soyez des hommes, sinon vous deviendrez les esclaves des Hébreux comme ils ont été les nôtres. Soyez donc des hommes et combattez. » Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut vaincu. Chacun s'enfuit sous sa tente et ce fut une très lourde défaite. Israël perdit 30 000 hommes. Le coffre de Dieu fut pris par les Philistins. Et les deux fils d'Élie, Ophni et Phinéas, moururent. Un homme de Benjamin s'échappa du champ de bataille et courut jusqu'à Silo le jour même. Il avait déchiré ses vêtements et couvert sa tête de poussière en signe de deuil. Au moment où il arriva, Élie était assis sur son siège aux aguets, près de la route, car il était très inquiet au sujet du coffre de Dieu. L'homme vint annoncer la nouvelle dans la ville et tous les habitants se mirent à pousser de grands cris. Quand Élie entendit ces cris, il demanda « Mais que signifie ce tumulte de la foule ?» L'homme se dépêcha de venir lui annoncer la nouvelle. Or, Élie était âgé de 98 ans. Il avait les yeux éteints. Il était complètement aveugle. L'homme dit à Élie « J'arrive du champ de bataille. Je m'en suis enfui aujourd'hui même. Et que s'est-il passé, mon fils ?» lui demanda Élie. Le messager lui répondit « Israël a pris la fuite devant les Philistins. Nous avons subi une terrible défaite. Même tes deux fils, Ophni et Phinéas, sont morts, et le coffre de Dieu a été pris. » Lorsque le messager fit mention du coffre de Dieu, Élie tomba de son siège à la renverse, à côté de la porte du sanctuaire. Il se brisa la nuque et mourut, car il était âgé et lourd. Il avait dirigé Israël pendant 40 ans. Quand sa belle-fille, la femme de Phinéas, qui arrivait au terme de sa grossesse, entendit que le coffre de Dieu avait été pris et que son beau-père ainsi que son mari étaient morts, elle chancela et brusquement prise de contraction, elle accoucha. Comme elle était près de mourir, les femmes qui l'entouraient lui dirent « Rassure-toi, c'est un garçon ». Mais elle y fut indifférente et ne répondit rien. Elle donna à l'enfant le nom d'Ichabod, plus de gloire, en expliquant la gloire divine à quitter Israël. Elle pensait au coffre de Dieu qui avait été pris à son beau-père et à son mari. Elle s'écria encore « Oui, la gloire a quitté Israël, car le coffre de Dieu a été pris. » Alors, s'être emparé du coffre de Dieu, les Philistins l'emportèrent d'Ébénézer à Asdod. Là, ils le mirent dans le temple de leur dieu Dagon et l'installèrent à côté de la statue de l'idole. Le lendemain matin, les habitants d'Asdod découvrirent Dagon étendu par terre, sur sa face, devant le coffre de l'Éternel. Ils le relevèrent et le remirent en place. Le jour suivant, de bonne heure, ils trouvèrent encore Dagon par terre, sur sa face, devant le coffre de l'Éternel. Sa tête et ses mains coupées gisaient sur le seuil de la pièce. Seul le tronc était resté là. C'est pour cette raison que, jusqu'à ce jour, les prêtres de Dagon et tous ceux qui entrent dans son temple à Asdod évitent de poser leurs pieds sur le seuil. Alors nous arrêterons là notre lecture, nous la poursuivrons donc plus tard.
Puis l'Éternel frappa très sévèrement les Asdodiens et fit des ravages parmi eux en les frappant de tumeurs. Des rats apparurent dans le pays, semant la mort et la destruction, dans la ville et les territoires qui en dépendaient. En voyant ce qui leur arrivait, les gens d'Asdod déclarèrent « Le coffre du Dieu d'Israël ne restera pas plus longtemps chez nous, car il nous frappe très sévèrement, nous et Dagon notre Dieu. » Ils envoyèrent chercher les princes des Philistins pour les réunir chez eux, et ils leur demandèrent ce qu'il fallait faire du coffre du Dieu d'Israël. Ceux-ci décidèrent de le transférer à Gath. Ainsi, on y transporta le coffre du Dieu d'Israël. Mais quand on l'eut transféré là-bas, l'Éternel intervint contre les habitants de la ville, et il sema la terreur. En effet, l'Éternel les frappa tous, quelle que soit leur condition sociale, et ils furent atteints de tumeurs. Alors ils expédièrent le coffre de Dieu à Écron. Mais lorsqu'il arriva là-bas, les Écroniens protestèrent en criant « Ils ont transporté le coffre du Dieu d'Israël chez nous pour nous faire mourir, nous et tout notre peuple. » Et à leur tour, ils firent chercher les princes des Philistins pour qu'ils se réunissent et ils leur dirent « Renvoyez le coffre du Dieu d'Israël et qu'il retourne dans son pays pour qu'il ne nous fasse pas mourir, nous, toute la population. » Une peur mortelle régnait dans toute la ville, car Dieu l'a frappé sévèrement. Les gens qui avaient échappé à la mort étaient atteints de tumeurs et les cris de détresse de la ville montaient jusqu'au ciel. Pendant 7 mois, le coffre de l'Éternel fut dans le pays des Philistins. Alors les Philistins convoquèrent leurs prêtres et leurs devins pour leur demander « Mais que ferons-nous du coffre de l'Éternel ? Faites-nous savoir de quelle manière nous devons procéder pour le renvoyer dans son pays ?» « Si vous renvoyez le coffre du Dieu d'Israël, dirent-ils, ne le renvoyez pas à vide. Faites-le accompagner d'un présent pour expier votre faute. Alors vous serez guéris et vous saurez pourquoi il n'a cessé de sévir contre vous. Mais quelle sorte de réparation devons-nous lui offrir ? » demandèrent les gens. Ils leur répondirent, « Vous ferez 5 représentations en or des tumeurs qui vous ont affligées et 5 rats en or, selon le nombre des princes des Philistins, car le même fléau a atteint tout le monde, y compris vos princes. Vous fabriquerez donc des effigies de vos tumeurs et des rats qui dévastent le pays, et vous les offrirez en hommage au Dieu d'Israël. Peut-être cessera-t-il de vous frapper sévèrement, vous, vos dieux et votre pays. Ne vous obstinez pas comme les Égyptiens et le Pharaon, rappelez-vous, qu'après avoir été malmenés par ce Dieu, ils ont dû laisser partir les Israélites. Maintenant, donc, fabriquez un chariot neuf, prenez 2 vaches qui allaitent, qui n'ont pas encore porté le joug, attelez-les au chariot et séparez-les de leurs petits, que vous ramènerez à l'étable. Prenez le coffre de l'Éternel et placez-le sur le chariot. Déposez dans un coffret que vous mettrez à côté de lui les objets d'or que vous vous offrez à Dieu pour réparer votre faute et ensuite vous laisserez partir l'attelage. Vous le suivrez des yeux. Si les vaches se dirigent vers la frontière du pays d'Israël du côté de Beth-Shemesh, ça veut dire que c'est leur Dieu qui nous a infligé tous ces grands malheurs. Sinon, nous conclurons que ce n'est pas lui qui nous a frappés, mais que tout ça nous est arrivé par hasard. Les Philistins suivirent cette instruction. Ils prirent 2 vaches qui allaitaient, les attelèrent au chariot et en enfermant leur veau dans l'étable. Ils placèrent le coffre de l'Éternel sur le chariot, ainsi que le coffret contenant les rats en or et les représentations des tumeurs. Et les vaches prirent tout droit la direction de Beth-Shemesh. Elles suivirent en meuglant toujours le même chemin, sans en dévier ni à droite ni à gauche. Les princes des Philistins marchèrent derrière elles jusqu'à la frontière vers Beth-Shemesh. Les habitants de Beth-Shemesh étaient en train de moissonner les blés dans la vallée. Tout à coup, ils aperçurent le coffre et s'en réjouirent. L'attelage arriva au champ de Josué de Beth-Shemesh et s'arrêta là, à côté d'une grande pierre. On fendit le bois du chariot et l'on offrit les vaches en holocauste à l'Éternel. Des Lévites avaient enlevé du char le coffre de l'Éternel et le coffret contenant les objets d'or et les avaient déposés sur la grande pierre. Ce même jour, les habitants de Beth-Shemesh offrir des holocaustes et d'autres sacrifices à l'Éternel. Quand les 5 princes des Philistins virent cela, ils retournèrent ce même jour à Écron. Les Philistins avaient donné à l'Éternel en offrande de réparation 5 objets d'or représentant leurs tumeurs, une pour chacune de leurs villes principales, Asdod, Gaza, Ascalon, Gath et Écron. Il y avait aussi des rats en or, selon le nombre des villes soumises aux cinq princes philistins, depuis les villes fortifiées jusqu'au village ouvert. La grande pierre sur laquelle fut déposé le coffre de l'Éternel sert encore aujourd'hui de témoin dans le champ de Josué à Beth-Shemesh. L'Éternel frappa 70 habitants de Beth-Shemesh parce qu'ils avaient regardé dans le coffre de l'Éternel. Le peuple prit le deuil à cause de ce grand fléau que l'Éternel leur avait infligé. Les gens de Beth-Shemesh dirent « Qui pourrait subsister devant l'Éternel, ce Dieu saint ? Chez qui pourrions-nous envoyer le coffre sacré pour le faire partir de chez nous ?» Ils envoyèrent des messagers aux habitants de Kiriath Yearim pour leur dire « Les Philistins ont restitué le coffre de l'Éternel, venez donc le chercher pour l'emporter chez vous. » Les gens de Kiriath Yearim vinrent prendre le coffre de l'Éternel et le transportèrent dans la maison d'Abinadab sur la colline. Ils établirent son fils Éléazar comme gardien du coffre de l'Éternel. 20 ans s'écoulèrent depuis le jour où le coffre avait été déposé à Kiriath Yearim. L'ensemble du peuple d'Israël aspirait à revenir à l'Éternel. Alors Samuel dit à tous les Israélites, « Si c'est de tout votre cœur que vous voulez revenir à l'Éternel, faites disparaître de chez vous les dieux étrangers et les idoles d'Astarté, et attachez-vous de tout votre cœur à l'Éternel et rendez-lui un culte à lui seul. Alors il vous délivrera des Philistins. » Les Israélites firent disparaître de chez eux les Baals et les Astartés, et ils ne rendirent plus de culte qu'à l'Éternel. Samuel leur dit alors, « Assemblez tout Israël à Mitzpah, je prierai l'Éternel pour vous. » Ils s'assemblèrent à Mitzpah, puisèrent de l'eau et la répandirent sur le sol devant l'Éternel. Ils jeûnèrent ce jour-là et confessèrent, « Nous avons péché contre l'Éternel. » C'est là, à Mitzpah, que Samuel fut le juge du peuple d'Israël. Lorsque les Philistins apprirent que les Israélites s'étaient réunis à Mitzpah, leurs cinq princes décidèrent de les attaquer. Les Israélites en furent informés. Ils prirent peur des Philistins. Ils dirent à Samuel, « Ne cesse pas de supplier l'Éternel, notre Dieu, en notre faveur pour qu'il nous sauve des Philistins. » Samuel prit un agneau de lait et l'offrit entièrement en holocauste à l'Éternel. Puis il supplia l'Éternel de venir en aide à Israël. Et l'Éternel exauça sa prière. Pendant que Samuel offrait l'Holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. Mais à ce moment-là, l'Éternel fit tourner contre les Philistins un puissant tonnerre qui les mit en déroute, de sorte qu'ils furent battus par les Israélites. Ces derniers sortirent de Mitzpah et battirent les Philistins en les poursuivant jusqu'au-delà de Beth-Kar. Samuel prit alors une pierre, la dressa entre Mitzpah et Shen et l'appela du nom Eben-Ézer, la pierre du secours, en disant « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. » Les Philistins furent humiliés par cette défaite. Ils ne pénétrèrent plus à l'intérieur des frontières d'Israël, car l'Éternel intervint contre eux pendant toute la vie de Samuel. Les villes que les Philistins avaient prises à Israël, d'Écron à Gath, revinrent aux Israélites, qui libérèrent tout leur territoire de leur emprise. La paix régna également entre Israël et les Amoréens. Samuel continua à exercer le pouvoir judiciaire en Israël durant toute sa vie. Chaque année, il faisait un circuit, s'arrêtant à Bethel, à Gilgal et à Mitzpah, et il rendait la justice pour les Israélites en chacun de ces endroits. Puis il revenait à Rama où il demeurait. Là aussi, il rendait la justice pour les Israélites. Il y avait bâti un autel à l'Éternel.
Alors, rassurez-vous là. La prédication ne sera pas proportionnelle à la longueur du texte lu. C'est même assez difficile finalement de sélectionner, de se dire, voilà, il y a tellement de choses à dire. En tout cas, une première remarque peut-être, c'est un danger qui peut nous guetter tous quand on lit un texte aussi ancien, entre guillemets, c'est de se dire, c'est une belle histoire, mais ça ne me concerne pas trop. Eh bien si, c'est un texte qui nous remet en cause encore aujourd'hui. Et c'est quelque chose que nous devons avoir à l'esprit. Alors, il existe au nord du cercle polaire arctique, voilà, un phénomène qui est très particulier et qu'on appelle le soleil de minuit. Aller dans les îles Lofoten ou plus au nord encore, jusqu'au Cap Nord. C'est aller à la rencontre d'une luminosité très étrange, parce que inconnue sous d'autres latitudes. Alors ce phénomène est lié au fait que le soleil ne se couche pas, même la nuit, du moins en été. Et donc la nuit, bah, vous voyez, hein, quand c'est ici minuit, c'est un mélange de ténèbres, un mélange de lumière. On sait pas trop parfois si on est la nuit, si on est le jour. C'est très particulier. À un certain moment, qui en général vers la mi-août, le soleil plonge si bas dans l'océan que les ténèbres semblent gagner la partie, mais même à cet instant précis, le soleil est plus bas encore hein, que sur ces photos-là, même à cet instant précis, donc on peut quand même continuer à observer le soleil toute la nuit, les faibles rayons qui sont là, et bien sûr être certain que dans quelques heures à peine, il sera de nouveau haut dans le ciel. Et il est une phrase dans notre texte que nous ne devons pas oublier tout au long de l'étude de ce passage, qui est pourtant assez sombre, admettons-le, c'est la parole de Samuel s'adressait à tout Israël, sous-entendu la parole qui venait de l'Éternel. Et c'est vrai qu'au milieu de l'obscurantisme des Philistins, de l'indifférence des Israélites, de la résignation du prophète, d'Élie, au milieu de tout ce cafouillage spirituel, du bruit des armes, qui peut aussi nous choquer, des prières superstitieuses, il reste toujours un rayon de soleil. Une marque de fidélité, une marque de relation personnelle entre Samuel et le Seigneur. Et Samuel, en quelque sorte, peut aussi nous faire penser à l'étoile qui a conduit une certaine nuit les bergers vers un lieu inconnu, en pleine nuit, mais qui était un signe suffisamment surprenant pour subjuguer, pour faire prendre conscience à ces bergers qu'un espoir était né, l'étoile bien sûr qui a mené vers l'étable où Jésus est né. Alors, dans ce long récit, hein, il faut bien admettre quand même que ce qui nous attire, ce qui retient notre attention avant tout, c'est en fait une histoire d'échec. Nous trouvons dans l'histoire de ce matin, dans le récit de ce matin, quatre personnages, quatre types de personnages, les Israélites, les Philistins, Élie et Samuel. Et si on s'en tient strictement d'un point de vue de la narration, ces quatre types de personnages ou ces quatre personnages connaissent au moins un échec. Alors les Israélites tout d'abord, le peuple de Dieu, qui est vaillant et qui veut se battre contre ses ennemis de toujours. Le combat est certainement engagé, hein, on reprend un peu le fil là du texte, hein, mais l'échec est total, on l'a lu. Des pertes humaines, des pertes de la bataille, mais également, verset 3 du chapitre 4, « Pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins ?» Perte de confiance en l'Éternel. Une deuxième bataille s'engage alors, avec la présence dans les rangs israélites d'un symbole même de la présence de Dieu, l'arche de l'Alliance, l'arche de Dieu, et à nouveau, c'est l'échec. D'autant plus cuisant que les Philistins connaissaient que l'arche était avec les Israélites, qu'ils s'en effraient même à un certain moment, se rappelant de la gloire passée des batailles menées vers la terre promise. Vous avez ici une petite carte voilà, du pays donc des Philistins et du lieu où s'est déroulée ces batailles. L'échec spirituel du peuple de Dieu se révèle d'une manière frappante lorsque l'arche est renvoyée depuis le territoire philistin et, bon, c'est vrai, accueillie d'abord avec joie par les habitants de Beth-Shemesh, mais bien vite avec crainte, au point ils vont donc la renvoyer, eux aussi. Au lieu donc d'y voir un signe de bénédiction, un signe de renouveau, d'un espoir englouti, leur réflexion, finalement, se borne à un raisonnement similaire à celui des Philistins. chapitre 6, verset 20. Qui peut subsister en présence de l'Éternel, de ce Dieu saint ? Finalement, une phrase qui aurait pu être aussi bien dite par les Philistins. Alors, on peut y voir ici une limitation de l'esprit, une limitation de leur vision du Dieu créateur, du Dieu qui pourtant leur a fait tant de bien, du Dieu qui leur a sans cesse répété qui il est, comment il agit, quelle relation il veut avoir avec son peuple, jusqu'à justement leur accorder une présence continue, constante et matérialisée par cette fameuse arche de l'Alliance, entre autres. Mais peut-être le pire échec du peuple de Dieu, c'est l'inconscience de se croire toujours en communion avec lui. Ils savent que Dieu ne les a jamais abandonnés, c'est vrai, ils en parlent au début du récit qu'on a lu, mais ils oublient par contre qu'eux l'ont oublié pas mal de fois, et que cela a eu pas mal de conséquences aussi dans leur histoire, des conséquences bien sûr négatives. Le souvenir n'est plus qu'une croyance, une sorte d'impunité. Finalement, je peux faire ce que je veux car je suis élu de Dieu. Et c'est vrai, nous aussi, est-ce qu'on ne se souvient pas parfois que des meilleurs souvenirs ? Alors cet échec-là se répète dans l'Ancien Testament, des longues périodes d'aridité spirituelle et après un réveil qui est malheureusement souvent limité dans le temps. Chapitre 7, verset 2, nous lisons « Il s'était passé bien du temps, depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kirjath-Jéarim, 20 années s'étaient écoulées, alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Il fallut attendre 20 ans avant de se rappeler que Dieu n'est pas une chose, un magicien, un faiseur de miracles ou un esprit guérisseur, mais bien une personne qui attend une relation. Quel gâchis ! Pourquoi fallut-il attendre 20 ans, une génération, avant que la conscience ne se réveille à nouveau et qu'à nouveau on ne soupire ? Là, on voit la profondeur du terme, hein. C'est pas juste invoquer, penser, se souvenir. Non, on soupire après l'Éternel. C'est-à-dire, finalement, on rentre réellement en communion avec lui. Et que Dieu travaille vraiment la conscience de chacun d'entre nous, et que personne ici présent n'attende encore de gâcher tant de moments de communion pour entrer en relation avec son Sauveur. En second lieu, les Philistins. Alors, qui sont-ils ? Pour les habitués de la lecture biblique, les Philistins sont synonymes d'ennemis du peuple de Dieu. Pour les enfants, alors, il n'y en a plus parmi nous, là, ils sont tous à l'école du dimanche, mais les Philistins, bien sûr, ils ont un représentant dans la tête, c'est Goliath, le géant qui est humilié et battu par l'enfant David. Alors, si on veut raisonner un peu par analogie, les Philistins, on pourrait les comparer dans notre histoire plus proche, dans l'histoire de France, aux Vikings. En effet, c'est un peuple à l'origine de la mer, et c'est un peuple qui semble ignorer la peur. On le voit dans la Bible à plusieurs moments. Alors, c'est un peuple qui est courageux. C'est un peuple qui est fort, c'est un peuple qui est très guerrier et qui semble facilement s'adapter au territoire qu'il conquiert. C'est un peuple qui est très ancien, puisqu'il est mentionné dans la Bible, dans la Genèse, Genèse 10, si vous voulez lire chez vous. C'est un peuple qui est sorti directement de Babel, c'est comme ça qu'il est mentionné dans la Bible, et il est dispersé vraisemblablement en Méditerranée, vraisemblablement aussi en Crète, selon les archéologues. Donc un peuple de la mer qui revient vers la terre. On a vu tout à l'heure le territoire qu'ils ont conquis. Et c'est un peuple qui va cultiver. C'est un peuple qui va donc se concentrer sur les plaines fertiles. Il va cultiver en particulier le blé. Et Dagon, le dieu dont on a parlé dans notre récit, en fait, c'est un dieu qui ne vient pas des Philistins, c'est un dieu cananéen, et qui vraisemblablement, justement, était un dieu lié à la fertilité, lié au blé. Alors, néanmoins, les Philistins, pour quand même finir leur histoire, c'est un petit peuple, ils vont rester un petit peuple, et malgré leur alliance à l'Égypte, plus tard, eh bien, ils vont être décimés par Nebuchadnezzar. Et ironie de l'histoire, ils vont donc subir le même sort que le peuple d'Israël, la déportation, et le reste étant détruit. Sauf que eux vont complètement disparaître, a priori, hein, à ce moment-là, alors que Israël, bien sûr, va continuer, encore une fois, son histoire. Alors, encore une fois, les Philistins sont donc confrontés aux Israélites et à leur Dieu tout-puissant. Ce Dieu qu'ils connaissent, se souvenant de la manière avec laquelle Dieu les avait fait sortir d'Égypte. Alors, il est intéressant, en étudiant bien le texte, hein, de noter que les Philistins, si vous regardez bien, n'ont absolument pas peur d'Israël. Mais, par contre, ils ont peur du Dieu d'Israël, ce qui est très différent. Versets 7 à 9 du chapitre 4, « Les Philistins eurent peur, parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. « Malheur à nous, dirent-ils, car il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent. Malheur à nous, qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants? Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans le désert. » Voilà, ces Philistins ont bien compris que si Dieu est avec son peuple, ils ne pourront jamais remporter la victoire. Mais ils réalisent également que jusqu'à présent, ça n'était pas le cas, à cause de l'indifférence et de l'oubli du peuple de Dieu, non pas à cause de ce que Dieu est. La preuve, ils en ont toujours peur. Alors leur courage leur permet néanmoins d'affronter Israël, ils remportent la victoire. Mais Dieu lui-même intervient, par rapport aux Philistins toujours, hein, et il fait échouer tout plaisir, toute saveur de victoire. Déjà la statue du dieu Dagon ne peut rester debout à côté de l'arche de Dieu. Par deux fois les retrouver renversés à même le sol. Et là, la frayeur s'installe chez les Philistins. Non pas, encore une fois, face au peuple de Dieu, mais de l'intérieur, c'est-à-dire face à la présence de Dieu, face à l'action de Dieu lui-même. L'arche est renvoyée de ville en ville, une étrange et humiliante épidémie l'accompagnant, provoquant la désolation. Elle doit finalement être renvoyée en Israël. Avec des offrandes, encore une fois, non pas à ce peuple d'Israël, mais bien à Dieu. Verset 3 du chapitre 6. « Faites à Dieu un sacrifice de culpabilité, ordonnent leurs propres prêtres. » Finalement, l'échec des Philistins, c'est celui aussi d'un humanisme déplacé, c'est-à-dire par ma force. Par mon pouvoir, par mon autorité, je peux remporter toutes les victoires. Je peux être dans l'abondance, je peux être dans la paix. C'est l'échec également d'une foi au rabais, en une statue, plutôt que dans un Dieu véritable, dans un Dieu qui est vivant, celui qu'ils reconnaissent comme tel, puisque conscient de la nécessité d'un sacrifice de culpabilité. Mais échec parce que le refusant comme leur dieu personnel. Alors, le troisième personnage qui connaît aussi un échec terrible, on en a déjà parlé lors de la dernière prédication sur 1 Samuel, je ne vais pas trop revenir dessus, mais c'est bien sûr Élie. On ne ressent plus pour ce vieillard faible que de la pitié. Il vit, il subit ses échecs, c'est vrai, depuis longtemps. Et dans l'œuvre monumentale et symboliste de Tolkien, Le Seigneur des Anneaux, il existe un personnage qui est frappant de ressemblance avec Élie, Denethor II, l'intendant du Gondor. C'est un intendant d'un royaume qui dérive petit à petit vers la déchéance. Et Denethor, peu à peu, abandonne sa mission. Lui qui était fier, qui étaient courageux, qui avaient mené des batailles, qui avaient surtout vécu des victoires, est décrit lors de sa dernière rencontre avec Gandalf ainsi, ce qui correspond à cette illustration. Au pied de l'estrade, il y avait un siège de pierre et dessus était assis un vieillard, le regard baissé sur ses genoux. Et à la veille de l'ultime bataille, alors que tous les autres peuples, tous les autres rois ont besoin de lui, ce roi, lui, est déjà vaincu. Il n'agit plus que par vagues sentiments et sombres regrets, naufragé de ses propres désillusions. Que se passe-t-il dans la tête d'Élie ? Lui aussi conscient de l'échec terrible, du but même de sa vie, de sa consécration, de la confiance que Dieu lui avait accordée. Il ne ressent plus qu'un vague sentiment à l'égard de l'arche de Dieu. On le voit dans le texte, à un moment où il se sent trop faible pour réagir, et de cette faiblesse, il va donc mourir lors de ce récit. Enfin, Samuel. Alors bien sûr, il faut tout de suite préciser que dans son cas, Samuel vit l'échec quelque part, mais en fait il le subit, ce n'est pas un échec qui dépend de lui. Il le subit à cause de la réaction du peuple de Dieu par rapport à Dieu. Nous l'avons vu, Samuel parle, et il continue de parler, mais rien ne bouge. Rien ne change, en tout cas en profondeur. On ne répond rien à Samuel. On ne le consulte même pas lorsqu'il s'agit d'engager l'arche de Dieu dans la bataille. Pendant plus de 20 ans, Samuel va subir l'échec de l'indifférence, de l'incompréhension, peut-être même de l'hostilité. L'échec d'une parole qui ne porte aucun fruit, en tout cas en apparence, qui ne fait plus réagir. Jusqu'à ce qu'enfin le peuple pousse des gémissements à l'Éternel et comme par hasard se rapproche alors de Samuel. Samuel prend la parole mais finalement continue de déclarer ce qu'il n'a cessé de déclamer pendant des années et des années. Verset 3 du chapitre 7, Samuel dit à toute la maison d'Israël, « Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers, les Astartés, dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. » Ce récit connaît donc une issue positive, mais à quel prix ? Quel chemin pour en arriver là ? Alors, si nous pouvons être stupéfaits de l'aveuglement, de l'endurcissement, tant des Israélites d'ailleurs que des Philistins, que même d'Élie quelque part, c'est que ce récit est avant tout l'histoire d'une foi dévoyée. Ce sera mon second point. Que ce soit les Israélites, les Philistins, dans une certaine mesure aussi Élie, chacun de ces personnages, on le voit dans ce récit, possède une foi. Mais c'est une foi qui est dévoyée parce qu'aucun des trois ne la centre sur le Dieu véritable. Et au risque de vous choquer quelque peu, personnellement j'ai tendance à croire dans ce récit, hein, si on se cantonne à ce récit-là bien sûr, que ceux qui ont la foi la plus consistante en Dieu, ce sont les Philistins. En effet, déjà ils savent qui et Dieu. Ils savent ce qu'il a fait. Ils savent que sans lui, les Israélites, par conséquent tout homme, ne peut rien. En tout cas, ne peut rien faire de puissant. Ils savent qu'il est vivant. Et ils savent aussi, enfin, que la repentance doit inclure un sacrifice. Ça va jusque-là. Il est d'ailleurs étonnant que les Philistins, ce soient eux qui pensent à la sortie d'Égypte, l'action de Dieu pendant cette sortie d'Égypte, alors que manifestement les Israélites n'y pensent plus, ou alors l'ont tellement assimilé qu'ils ne pensent plus à l'essence même de l'action de Dieu lors de cette sortie d'Égypte. Et les Philistins se souviennent très bien de ce qui est arrivé à ceux qui ont voulu résister à la volonté de Dieu pendant à la volonté de Dieu envers ceux qui ont asservi le peuple de Dieu. Ils connaissent la puissance de Dieu et ils savent que contre lui, ils n'ont aucune chance. Verset 8 du chapitre 4. Malheur à nous, qui nous délivrera de ces dieux puissants ? Ils ont surtout conscience de la différence entre servir un dieu quelconque, matérialisé sous la forme d'une statue, leur dieu Dagon, et la puissance du dieu véritable. Chapitre 4, verset 7. Les Philistins eurent peur, parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. « Malheur à nous, dirent-ils, car il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent. » Ils montrent bien qu'ils reconnaissent le fait que Dieu est vivant et que s'il agit, rien ni personne ne peut s'y opposer. Mais cette foi si éclairée, si réaliste, si proche de la vérité finalement, ne suffit pas malheureusement à les sortir de leur idolâtrie. Ils voulaient la prospérité. Leur dieu Dagon représente la fertilité de la terre et particulièrement liée au blé, on l'a dit. C'était une céréale synonyme de richesse déjà à l'époque, d'une vie confortable, on l'a vu sur la carte aussi, entre mer et soleil. Alors, la Bible n'est pas fataliste et ce passage possède un écho plein d'espoir, celui de Rahab. Quel contraste avec elle. Elle était dans une situation tout à fait similaire. Je vous invite à relire peut-être chez vous Josué, le début de Josué, Josué 2 en particulier, pour lire en détail cette magnifique histoire. En tout cas, elle était dans une situation similaire à celle des Philistins dans notre texte. Elle était également, elle, consciente de la puissance de Dieu et que Dieu seul pouvait lui apporter la paix de son cœur. Elle reconnaissait d'une manière personnel, le Dieu véritable, et elle va accepter de tout changer, de tout bouleverser dans sa vie pour connaître justement ce Dieu véritable, quitte à renier ceux qui marchaient contre Dieu. Elle s'engage. Rahab, la prostituée issue d'un peuple qui méprisait l'Éternel, se retrouve même dans la lignée généalogique du Sauveur du monde, Jésus-Christ. Elle a su donc sortir de la logique humaine et recentrer sa foi pour la mettre au cœur de la volonté de Dieu. Rahab, c'est un très bel exemple d'humilité, de lucidité, mais aussi d'une mise en valeur de la vraie motivation dans la vie, celle de rencontrer Dieu. Un exemple frappant de foi dévoyée concerne donc également le peuple de Dieu. Ce peuple, chargé pourtant d'histoire au pluriel extraordinaire, issu de l'aide directe de Dieu lui-même, se demande au début pourquoi la défaite. C'est sûr qu'avec le recul, nous pouvons lire, relire, ça nous semble évident, ou peut-être on peut se placer au-dessus de leur raisonnement, et pourtant, est-ce que parfois nous ne faisons pas la même chose ? Foi dévoyée parce qu'ils ne s'adressent pas à Dieu, si vous lisez bien le texte, ni même à ses prophètes. Mais ils se rassurent en pensant qu'un objet sacré, c'est vrai, symbole, c'est vrai, de la présence de Dieu autrefois, suffirait à lui seul à changer le cours de l'histoire. Alors, l'Arche de l'Alliance, que vous avez ici en illustration, c'était un coffre d'environ 1,25 m sur 75 cm, un coffre en bois recouvert d'or à l'extérieur et à l'intérieur. Il contenait une portion de la manne, il contenait le bâton d'Aaron et les tables de la loi. Il était recouvert de deux chérubins qui couvraient plutôt le couvercle de leurs ailes. Ce coffre sacré faisait partie du tabernacle et a donc accompagné le peuple d'Israël dans le désert jusqu'à l'arrivée dans la terre promise. Et pourtant, ici dans notre récit, le peuple de Dieu, au lieu de placer sa confiance en Dieu, la place en cet objet, transformant le symbole, le mémorial, en une magie supposée via une superstition dérisoire. Notez bien que ce n'est pas une approche qui est déliée de la notion de Dieu. Ils pensent, selon le verset 3 du chapitre 4, que Dieu, que l'Éternel, les a abandonnés, et donc que par la présence de l'arche, ils seraient au bénéfice de la présence de Dieu. Ils relient donc, en quelque sorte, cette superstition à Dieu, en tout cas de son action passée. N'en demeure pas moins que c'est une méprise sur ce qu'est Dieu. C'est une preuve aussi d'un éloignement manifeste entre eux et le Seigneur, le vivant. Parce qu'au lieu de rechercher Dieu concrètement, ils s'appuient sur ce qu'ils imaginent de la forme que pourrait être Dieu, ou sa présence, un petit peu à l'image de leurs ancêtres qui ont adoré un veau d'or. Imagination, selon eux, des caractéristiques de ce que pouvait être le Dieu véritable. Ainsi, le symbole, au lieu de rester un moyen pédagogique pour se rapprocher de Dieu, devient un objet d'adoration et de superstition, évidemment vidé de son essence divine. Pourtant, Dieu est-il si lointain pour que son peuple ne le voie plus, pour que les Philistins ne se tournent pas vers cet absolu de vérité, cet absolu d'amour? Dieu répond-il de manière si confuse à la prière des hommes? Versets 8 et 9 du chapitre 6, Dieu, dans notre récit, va montrer un signe ultime aux Philistins. Ce sont les prêtres donc des Philistins qui parlent. Vous prendrez l'arche de l'Éternel et vous la mettrez sur le char. Vous placerez à côté d'elle dans un coffre les objets d'or que vous donnez à l'Éternel en offrande pour le péché. Puis vous la renverrez et elle partira. Suivez-la du regard. Si elle monte par le chemin de sa frontière vers Beth-Shemesh, c'est l'Éternel qui nous a fait ce grand mal. Sinon, nous saurons que ce n'est pas sa main qui nous a frappés, mais que cela est arrivé par hasard. Les prêtres demandent à Dieu un signe, en quelque sorte. Et ce signe s'accomplit. Les vaches prennent la route de Beth-Shemesh. Dieu agit indépendamment de l'action des hommes. On ne se moque pas de Dieu, et sa pédagogie n'empiète en rien sur ce qu'il est, sur son caractère. Dieu, dans ce récit, reste bien le repère absolu, au milieu de la confusion de la pensée des hommes et de la dérision de leurs actes. Alors c'est vrai, pour nous aujourd'hui, on peut se sentir un peu loin de ces guerres, de ces sacrifices, de cette époque un petit peu trouble. Et pourtant, le cœur de l'homme a-t-il vraiment changé? Notre propre cœur est-il vraiment si différent? Vivons-nous aujourd'hui une histoire qui se répète? À mon sens, ce récit est d'un grand réalisme sur l'histoire de l'humanité, sur sa noirceur autant que sur l'espoir constant apporté par l'œuvre de Dieu, et en particulier pour nous, par l'œuvre de Jésus à la croix. Car au-delà des guerres de ce récit, cette histoire nous parle principalement du cœur de l'homme, de sa volonté d'indépendance vis-à-vis de Dieu, de notre indifférence devant le plus bel acte d'amour de l'humanité, le sacrifice de Jésus pour tous, et surtout pour ses ennemis. Cette histoire nous parle de la petitesse d'esprit, quant au fait d'imaginer la puissance de Dieu, qu'on limite tellement. De notre orgueil démesuré, en croyant que nous pouvons tout affronter sans lui. De notre mépris de sa sainteté, quand nous plaçons notre espoir dans la prospérité, dans notre capacité à faire le bien, à résoudre nos propres problèmes, à aimer ceux qui nous entourent. Souvenez-vous, la parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Au chapitre 7, suite à cette fidélité constante de Samuel, le peuple se repent, et que se passe-t-il? Dieu pardonne. j'allais ajouter, évidemment. Voilà qui est Dieu. Il pardonne inconditionnellement. C'est vrai, Samuel continuera à annoncer l'amour de Dieu et la joie d'être à son service, à le connaître personnellement. Samuel continuera à parler même contre sa propre volonté lorsque le peuple de Dieu, on le verra dans quelques temps, rejettera le Seigneur pour réclamer un roi. Dieu lui-même devra le consoler. Je cite chapitre 8. « Ce n'est pas toi qu'ils rejettent, mais c'est moi qu'ils rejettent, afin que je ne règne plus sur eux. » D'autres prophètes continueront aussi de parler aux nations, jusqu'à Jésus, Jésus lui-même, Dieu sur la terre, lumière du monde. Jésus n'a-t-il pas mis en exergue le refus viscéral de tant d'êtres humains de reconnaître Dieu, d'aspirer à connaître sa nature, à jouir de son amour et à espérer en ses promesses? Jésus lui-même n'a-t-il pas mis au jour la foi dévoyée, la superstition inutile, au lieu d'une foi simple, personnelle et concrète dans le Sauveur? Alors, qui est notre plus grand ennemi aujourd'hui? N'est-ce pas ce qui, en nous, de l'intérieur, comme nous l'avons vu, nous éloigne de Dieu, nous fait oublier tout ce qu'il a fait pour nous, tout ce qu'il est? N'est-ce pas avant tout dans notre cœur, dans nos pensées, dans notre nature même d'exister sans Dieu, ou de vaincre par notre propre force? Ce récit nous appelle à nous recentrer sur une personne, sur Jésus-Christ. Ce récit nous appelle aussi à reconnaître de plus en plus Jésus comme notre roi. Et pourtant, en quoi nous confions-nous? En de bonnes croyances, en apparence peut-être bien spirituelle, ou en une foi véritable, profonde, sincère dans ce que Dieu dit? Ce récit nous appelle à reconnaître de plus en plus Jésus comme notre libérateur. De quoi nous maintenons-nous prisonniers? Quelle pensée orgueilleuse dans notre esprit est plus forte, plus raisonnable finalement que la pensée de Dieu? Quelle entrave plaçons-nous entre notre âme et la parole de Dieu pour pouvoir vivre? Dieu attend notre repentance, un cœur qui revient vers lui, qui cherche à le découvrir tel qu'il est, pour pouvoir admirer ce qu'il est et son action dans chacune de nos vies. Ainsi que le soleil de minuit, qui ne se couche jamais réellement, telle est la parole de Dieu qui cherche à briller dans nos ténèbres. Alors que le Seigneur nous éclaire pour rayonner de sa joie, pour être nous aussi de ceux dont la parole s'adresse à nos concitoyens, à nos contemporains, en mots et en actes, de ceux qui apportent l'espérance de la réconciliation avec Dieu, du salut en Jésus et de la plénitude d'une vie en communion avec celui qui nous aima le premier. Amen.